mental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Ce bon début de semaine, le quatrième sommet Union européenne-Afrique s'est clôturé, c'est jeudi dernier à Bruxelles. Plusieurs résolutions issues de cette rencontre dans le domaine de la paix et sécurité, la prospérité de la population ont été adoptées. En marge de ce sommet, parole aux auditeurs fait les points sur la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Que pensez-vous de la coopération entre la RDC et l'Union européenne et quels seraient pour vous les axes prioritaires à privilégier dans cette coopération? Appelez-nous au 081 890 6315. Berry Franklin Luchaka, assisté des Rose et Nyanfoura sur la réalisation de cette émission mise en onde par Mimi Kindou. Pierrot et l'ami, je vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka. Pour cet échange, nous avons invité pour vous M. Jean-Michel Dumont, ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en RDC. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio Okapi.net, à votre service.
Monsieur Jean-Michel Dumont, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Capi pour partager ses préoccupations, les préoccupations des auditeurs. Avant toute chose, comment se porte la coopération aujourd'hui entre la RDC et l'Union européenne?
Bah, écoutez, elle se porte bien. Les relations sont bonnes et je crois que nous progressons dans le bon sens.
Et au niveau du sommet de Bruxelles, on va peut-être juste dire un mot. Les participants, que ce soit les chefs d'État des gouvernements de l'Afrique et de l'Union africaine, ont beaucoup martelé sur la paix, la sécurité, la prospérité de la population. Ils ont adopté plusieurs résolutions autour de ça. Et je crois que ce sont les mêmes préoccupations aussi par rapport à la RDC dans le domaine de la paix et la sécurité, par exemple. Quelles sont les différentes interventions de l'Union européenne en RDC?
Écoutez, non, je pense qu'effectivement, ce sont des préoccupations communes. Parce que, qu'est-ce qu'on en voit? On voit que l'Union africaine, les pays africains ont remarquablement progressé au cours des dernières années. Il y a une croissance. Il y a quand même une tendance générale à la paix. Mais il y a des crises qui restent graves. Et je pense que nous avons enregistré des succès. La situation, par exemple, dans la Corne de l'Afrique s'est améliorée. La situation au Sahel aussi est en voie, malgré tout, de stabilisation. Il y a eu donc des élections qui se sont bien passées au Mali. Alors, reste évidemment un problème qui nous préoccupe et qui vous préoccupe aussi, puisque les Congolais sont directement concernés. C'est la crise
en Centrafrique.
En Centrafrique, bien évidemment. Donc, il y a eu une réunion en marge du sommet Union européenne-Union africaine, à laquelle la République démocratique du Congo a activement participé. Et je crois que ce qui a été dit, bon, évidemment, c'est un soutien à la présidente pour continuer l'action qu'elle a déjà entreprise de réconcilier les différentes communautés de République centrafricaine. Et puis le soutien à la force d'intervention de l'Union africaine avec la nécessité, et le secrétaire général des Nations Unies en passant à Bangui tout récemment a encore souligné cette nécessité. Alors, pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, je crois que nous pouvons être relativement confiants parce que je crois que l'élément essentiel a été une unité de la communauté internationale à travers les cinq envoyés, c'est-à-dire les envoyés du secrétaire général des Nations Unies, l'envoyé spécial, le représentant spécial Martin Kobler, l'envoyé spécial de l'Union européenne Koen Verwaak, l'envoyé spécial des États-Unis Rust Feingold et de l'Union africaine Boubacar Diarra. il y a eu véritablement une action dans le même sens, et je crois qu'il y a été très importante avec aussi le renforcement des forces armées congolaises, avec l'intervention de la brigade des Nations Unies. Je crois qu'ils ont amené quand même un élément très important, et qui est la défaite du M23. Et cette défaite du M23, évidemment, ne règle pas tous les problèmes. Il y a encore énormément de difficultés dans la région, mais on voit bien qu'elle a enclenché une dynamique positive, en ce sens que des membres de groupes armés se sont rendus. Il y en a à peu près à l'heure actuelle quelques 3000 qui sont abrités dans trois camps que j'ai pu visiter d'ailleurs récemment, à Kamina, à Kitona et à Kotakoli. Et je pense qu'il est attendu que d'autres membres de groupes armés se joignent à ce moment. Donc là, il y a vraiment un élément très positif. Et donc, notre souci, c'est maintenant, une fois que les conditions seront réunies, d'appuyer le gouvernement dans l'opération de réinsertion de ces ex-combattants dans la vie sociale et économique de la nation congolaise, et puis de participer également à ce qui est très important, le rétablissement de l'autorité de l'État, qui se manifeste déjà, mais qui doit être conforté dans les régions qui ont été libérées.
Mais on sait d'une manière traditionnelle, si on peut dire ainsi, en quoi consiste l'aide ou l'appui de l'Union européenne en RDC, les secteurs prioritaires qui sont vraiment concernés dans cette coopération?
Alors, nous avons trois objectifs majeurs. Le premier est de contribuer à la paix et à la stabilité dans toute la région, bien sûr dans la région des Grands Lacs, mais pas seulement. Le deuxième, c'est que les taux de croissance, qui sont tout à fait remarquables, puisque nous attendons autour de 9% pour cette année, se traduisent par une amélioration des conditions de vie de la population. Et je crois que là, la première condition, c'est que cette croissance permettre d'augmenter le budget de l'État, et que augmenter le budget de l'État, je veux dire, pour un pays de 75 millions d'habitants, les recettes de l'État sont manifestement modestes. Donc il faut que ces recettes augmentent, et que cette augmentation de recettes serve à alimenter, d'une part, les budgets des ministères qui assure, je dirais, l'ordre public de manière générale, c'est-à-dire l'armée, l'intérieur et la justice, et puis les budgets des ministères sociaux, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Puis le troisième objectif, c'est enraciner, contribuer à l'enracinement de la démocratie et des droits de l'homme dans ce pays. Donc ça sont trois objectifs majeurs, et ça se décline à travers quatre programmes, donc dans les années maintenant jusqu'en 2020, qui sont tous centrés autour d'une amélioration de la gouvernance, c'est-à-dire de faire en sorte que la croissance se traduise par des bénéfices réels pour la population. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part contribuer à l'amélioration du fonctionnement même du système budgétaire. Ça, c'est un premier volet. Ensuite, il y a tout ce qui concerne les programmes où on essaye de faire en sorte que l'armée, la police et la justice fonctionnent mieux. En particulier, par exemple, que les militaires soient bien payés, que les policiers soient bien payés. C'est comme ça que nous avons donc permis un recensement des militaires et des policiers, que nous l'avons permis que soit donnée une carte d'identité biométrique, et donc que chacun puisse avoir la preuve qu'il est bien armé et qu'il a droit à un salaire. Et accompagné avec le mouvement de bancarisation, ça s'est traduit effectivement par une amélioration à la fois de la régularité et du versement, donc de la solde. Ça, c'est le premier volet, donc qui est très centré autour de la gouvernance. Deuxième volet, c'est clair, il y a un besoin énorme d'infrastructures. Et donc, là, nous raisonnons sur l'ensemble du pays. Bon, il y a une chose qui est très très visible, hein. Il y a des populations nombreuses à Kinshasa, il y a des populations nombreuses dans le sud du Katanga, et puis il y a également toute une bande le long de la frontière, de ce qu'on appelle le rift albertain, où il y a beaucoup de gens. Et puis au milieu, il y a une grande zone qui est beaucoup moins peuplée. Et donc, je crois que ce qui est essentiel, et je pense qu'à travers ça, nous voulons aussi signifier notre volonté de participer à l'unité physique de ce très vaste territoire qu'est la République démocratique du Congo, c'est permettre des liaisons faciles entre Kinshasa, Lubumbashi et les Kivu, si pour parler simplement. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça que nous sommes engagés dans un ensemble de programmes très importants. Le premier, c'est de réhabiliter les grandes voies de communication fluviale. Vous avez ici une véritable autoroute qui est le Congo, qui est un fleuve, c'est le deuxième fleuve du monde, c'est un fleuve dont le débit est régulier. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et donc, on doit pouvoir, et c'est ce sur quoi nous travaillons, circuler de façon sûre. Vous savez qu'il y a chaque mois de nombreuses victimes dans des naufrages sur le Congo. C'est donc de pouvoir de jour, de nuit, dans des conditions de sécurité et de rapidité satisfaisantes, relier Kinshasa à Kisangani d'un côté et puis sur le Kasai à Ilebo. Mmh. Et donc parallèlement, pour faire un véritable nœud de communication, nous continuons la construction de la route nationale numéro 1. Mmh. Donc nous allons lancer dans quelques semaines entre l'est du Bandundu et la frontière du Kasaï occidental des travaux pour 114 km supplémentaires. Et puis au cours du programme que nous avons, nous continuerons avec nos autres partenaires, notamment la Banque africaine de développement, pour réaliser au total 400 km supplémentaires de route.
Et ça vous avez dit, ça c'est le deuxième volet, il y a le troisième et le quatrième. Un peu rapidement, vous pouvez mettre aux auditeurs, parce qu'ils sont déjà nombreux sur la ligne. Okay. Le troisième et le quatrième.
Le troisième, c'est la santé. Mm-hmm. Il y a eu des progrès qui ont été faits au cours des dernières années, mais on voit bien que c'est encore insuffisant. Et donc, nous avons des programmes de santé qui visent à développer une offre de prestations de santé pour 3,5 millions de personnes à peu près à l'heure actuelle. C'est un programme qui coûte cher, 150 millions d'euros sont prévus. Et donc, l'objectif, c'est de montrer que ça peut marcher et que ça peut être étendu à d'autres régions. Le troisième volet, c'est l'environnement.
Le quatrième, disons.
Le quatrième, plutôt, oui, et l'environnement, avec l'idée, essentiellement, de travailler au profit des populations qui sont notamment autour des parcs, dans le domaine de l'agriculture durable, dans le domaine des ressources énergétiques renouvelables, pour montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre protection de l'environnement et développement.
Voilà, on va revenir à vous. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il est temps aussi d'écouter les auditeurs qui sont les bénéficiaires de toutes ces actions de l'Union européenne en RDC, ce qu'ils pensent de tout cela, mais ce qu'ils proposent aussi comme priorité pour l'avenir. La Guiloa, vous êtes à Kalemi, dans la province du Katanga. Arsène, vous êtes à Kikuit, dans le Bandundu. Docteur Richard, vous êtes ici à Kinshasa. Je rappelle encore le numéro d'appel pour intervenir en direct, 081-890-6315.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
La Guiloa, vous êtes avec nous, Décalémi, bonjour.
Bonjour, M. Pierrot, bonjour à l'invité et à tous les autres de la radio.
On vous écoute, La Guiloa.
Merci beaucoup. Pierrot, je vais vous dire une chose que la radio Capi ici ne met pas très bien parce qu'elle était foudroyée. J'ai bien suivi le sujet de l'aide et de l'Union européenne à la RDC. Nous félicitons vraiment cette Union européenne avec toutes ces aides tentées de continuer toujours à nous aider, nous, la RDC, qui sont victimes. Mais une chose qui est grave, que moi je me demande, pourquoi l'Union européenne veut pour toujours aider la RDC? Or, nous connaissons très bien que c'est la France qui est au germe de tous les troubles qui se trouvent à l'est du pays, depuis l'entrée massive des Rwandais génocidaires. Pour nous, les Congolais, la première aide de la paix. Et nous demandons à la France de venir vite récupérer tous ces Rwandais qu'il avait obligés à Mobutu de faire revenir et soit entrer en RDC. Parce qu'il ne suffit pas seulement de nous fournir les produits pharmaceutiques, les infrastructures et les factures et les infrastructures au moment que nous souffrons encore de la guerre. C'est pourquoi, mais moi je ne refuse pas de cette aide, mais nous demandons seulement à la France de venir d'abord récupérer tous ces Rwandais qui se disent aujourd'hui congolais, qui sont tentés de nous abaisser. Nous,
oui, voilà, oui, la Guilopo n'est pas faire de l'amalgame dans notre échange. Vous dites ceci, vous félicitez l'Union Européenne pour tout ce qui est fait au pays, mais vous êtes inquiet, pourquoi toujours continuer à aider la RDC? On a besoin des infrastructures, mais il y a la guerre. Si je peux bien vous comprendre, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord lier le fait qu'on puisse continuer à aider RDC. S'il vous plaît, et au même moment, il y a la guerre à côté, vous voulez que tout cela prenne fin. Mais s'il faut entrer dans le débat autour de ce qui s'est passé en 1994 avec le réfugié qui était entré sur le sol congolais et la ramification des troubles de la guerre actuellement, je crois bien que ça va faire peut-être un autre débat, notre invité pourra placer un mot. Mais si on peut retenir par rapport à notre échange d'aujourd'hui, c'est que vous souhaitez qu'on puisse plus aider la RDC à mettre fin à la guerre plutôt que recevoir de l'aide comme des médicaments et autres choses, et pourtant la guerre continue. Merci beaucoup,
Guilouane. C'est notre souci pour
voilà,
nous,
merci.
Les Congolais. Nous demandons d'abord qu'il y ait l'aide de la paix.
Voilà, merci beaucoup.
C'est l'Occident qui est au germe.
Merci beaucoup. Vous souhaitez que les efforts soient plus concentrés pour le retour de la paix. Merci beaucoup, la Guilouane. Arsène, vous êtes à Kikwit dans la province de Bandundu. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Et vous avez suivi, la Guilouane, lui pense que les efforts doivent être plus concentrés sur le retour de la paix. Et pour vous, quels sont les axes prioritaires dans cette coopération entre l'Union Européenne et la RDC?
Merci beaucoup pour la parole. Je crois que j'ai bien suivi notre invité et ça me fait plaisir. Et je ne peux que saluer l'aide que les Européens essaient de nous fournir ici en RDC. Et je vais un peu parler dans le sens que l'aide doit être orientée dans le sens du progrès et dans le sens que dans l'avenir, que nous, le Congo, que nous soyons capables aussi un beau jour de porter notre contribution au développement européen comme ça s'est passé dans le passé. Parce que quand les Européens avaient besoin de nous, pendant la guerre mondiale, les Congolais se sont levés, ils sont allés et ils ont donné ce qu'ils avaient donné. S'ils avaient besoin de la ferraille, nous avons fourni ce que nous pourrions fournir aux Européens pour qu'ils soient développés et être au niveau où ils sont. Aujourd'hui, c'est à leur tour, ils nous rendent service pour que demain, si ça pouvait encore avoir lieu, nous pourrions les aider. Alors, je vais orienter ma réflexion dans le sens qu'a abordé l'invité. D'abord, il a parlé de la sécurité. La sécurité, ensuite, c'était l'infrastructure, la santé et l'environnement, si j'ai bien suivi l'invité. Alors, moi, dans tous ces domaines-là, que la communauté européenne est en train de fournir l'aide ici au Congo, je voulais insister, si on regarde trop l'actuel, je crois que l'aide ne peut servir pas à grand-chose. Il faut plutôt regarder l'avenir, et pour regarder l'avenir mieux, il faut voir la jeunesse. Et la jeunesse, il faut la voir plutôt dans l'éducation et l'instruction. J'aimerais bien que cette aide que les Européens se consacrent pour nous fournir soit plus orientée dans l'infrastructure et l'équipement de l'éducation et de la formation. Pourquoi je dis ça? Parce que demain, les hommes actuels, s'ils ont des défauts, s'ils ont des qualités, ils ont montré la preuve avec ce que nous vivons. Alors, faut-il maintenant rester en train de regarder l'homme d'aujourd'hui ou l'homme du passé tout en étant un peu nostalgique? Moi, je crois qu'il faut regarder l'homme de demain. Et l'homme de demain, c'est la jeunesse. Il faut le regarder plutôt dans sa formation et dans son instruction. Et pour ça, je voulais à ce que l'Union européenne se consacre plus à l'éducation et à l'instruction, plus à l'équipement et aux infrastructures. Pourquoi? Parce que cet équipement et cette infrastructure va aider la jeunesse à se former moralement, intellectuellement et physiquement. Parce que si on ne pouvait que rester sur le même banc, je crois que nous aurons cette aide, nous aurons besoin de cette aide aujourd'hui, demain, après-demain et pour toujours. Mais pour que ça puisse être aussi dans le sens inversé, il faut qu'aujourd'hui, nous pensions plus à l'homme de demain, qui est la jeunesse d'aujourd'hui.
Merci voilà beaucoup, voilà, merci.
Comment je peux le lancer.
Merci beaucoup, Arsène. Vous souhaitez que les interventions, l'aide de l'Union européenne soit plus orientée vers la jeunesse, ça veut dire l'éducation, la formation, l'instruction, les équipements et les infrastructures de formation. Merci beaucoup, et Arsène. Docteur Richard, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Vous avez
bonjour
suivi...
Bonjour à tout le monde.
Mm-hmm. Vous
oui,
avez suivi...
Flatté par le programme présenté par l'invité, je le félicite pour la clarté de son exposé. Et puis, je dis ceci, tout ce qu'il a dit en quatre points vaut quoi si il n'y a pas une aide pour la démocratie menant au progrès tous azimuts. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Nous avons vu Louis Michel de l'Union européenne parler en 2006. Aujourd'hui, nous avons un système électoral désarticulé. Des élus de 2006 sans mandat qui continuent. Il y a la brûlure dans le cœur du peuple qui voit demain peut-être une pyromanie préparée pour que peut-être ce qui se passe en Centrafrique se passe ici. Ils ne peuvent pas, l'Union européenne, donc tous ces pays, fermer les yeux dans une démocratie qui amène à l'affrontement aveugle, peut-être déchirera le pays. Ça aussi, c'est à ajouter. Merci beaucoup.
Merci, docteur Richard. Vous souhaitez que, au-delà de tout, qu'il y ait que l'Union européenne ouvre les yeux sur la réelle démocratie, parce que là vous dénoncez le système électoral qui permet, qui fait qu'aujourd'hui qu'on ait des élus, hein, une asymétrie au niveau des institutions. Vous souhaitez qu'on puisse plus se consacrer à la démocratie. Merci beaucoup, docteur Richard. Nous allons aussi écouter ingénieur Mangoyo qui est ici à Kinshasa. Le temps que Jean garde la ligne, l'invité pourra réagir. Et puis on va continuer. Jean, ingénieur Mangoyo, vous êtes avec nous de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Vous avez suivi les uns et les autres. Arsène a pensé qu'il faut plus orienter l'aide vers la formation, l'éducation. Docteur Richard insiste beaucoup sur la consolidation de la démocratie. Mais il y a Laguilo Dekalemi, lui, qui a insisté sur la paix sans laquelle les aides ne pourront pas profiter à la population. Pour vous, quels doivent être les axes prioritaires?
Merci, Pierrot, pour cette thématique. Je veux parler pour les uns et pour les autres, c'est-à-dire que à des niveaux, je vais insister sur l'aide de l'Union européenne et ensuite sur les efforts qui doivent être fournis par les gouvernements, donc le gouvernement de la RDC. Pierrot, vous savez, il ne faut pas que la RDC soit un éternel assisté. C'est bien. Il y a beaucoup de pays au monde qui capitalisent, disons, l'aide extérieure. Mais nous, par expérience, nous avons constaté que l'aide extérieure ne contribue pas réellement au développement durable de notre pays. Mm-hmm. Pour la simple raison que, généralement, les bailleurs de fonds, c'est eux qui dictent, justement, disons, les secteurs dans lesquels cette aide doit être utilisée. Si c'est le contraire qui se faisait, ça aurait été mieux. Alors, c'est ici l'occasion de dire l'aide de l'Union européenne, c'est très bien, c'est la bienvenue. Mais est-ce qu'à notre niveau, au niveau du gouvernement, est-ce qu'on capitalise cette aide-là? Est-ce que vraiment il y a des contre-propositions pour dire, écoutez, comme l'a dit Arsène, par exemple, vous savez que nous, notre priorité ici, c'est l'éducation, il y a la santé, et bien sûr, les infrastructures. Est-ce que, à ce niveau-là, depuis que l'Union européenne a commencé à intervenir, mais apparemment, il n'y a pas de développement de ce secteur-là. Donc ça, c'est pour l'Union européenne. Donc, je crois que, pour le gouvernement, il faut absolument mettre en place une politique tout à fait durable de développement. C'est-à-dire, comme l'a si bien dit et les autres intervenants, nous avons besoin, nous, de la paix. Une paix durable. Il faut que la communauté internationale, à travers l'Union européenne, puisse focaliser ses efforts sur, disons, l'avènement d'une paix durable en RDC. Alors, qui dit paix durable voit aussi la défense et la sécurité. Donc, je crois que il faudra, à ce niveau-là, l'aide européenne soit une aide qui pousse, renforcer les capacités d'intervention de nos militaires, de nos troupes ici, pour une fois, pour toutes, essayer de stabiliser notre pays en ce qui concerne la paix. Parce que sans la paix,
merci,
tout l'argent qu'on peut donner, Pierrot, sera comme un coup de paix dans l'eau.
Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo. Vous êtes ici à Kinshasa. Nous avons beaucoup d'auditeurs qui interviennent de Kinshasa. Jean et Papy, gardez la ligne. Hein. On aura souhaité aussi ceux qui sont en Mbujima, Kananga, Matadi, de nous appeler au 081-890-5315 pour intervenir. On a suivi les uns et les autres. Ingénieur Mangoyo qui a beaucoup insisté sur la capitalisation de cette aide hein, au niveau de la RDC, la discussion en amont pour savoir quels sont les secteurs prioritaires d'intervention, mais aussi que les efforts de l'Union européenne se focalisent sur l'avènement de la paix durable dans les pays. On va revenir à vous. Je rappelle encore le numéro pour intervenir en direct, 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Jean-Michel Dumont, vous avez suivi les uns, les autres. Si on peut regrouper leurs interventions, il y a le problème de la paix, que l'Union européenne focalise les efforts sur le retour de la paix. Mais l'éducation aussi, c'est important, selon Arsène. Docteur Richard, qui a beaucoup insisté sur la consolidation de la démocratie.
Oui, ben, je voudrais d'abord saluer tout particulièrement nos auditeurs de Calémie. J'ai eu l'occasion l'autre jour de venir dans ce port au bord du lac Tanganyika, et je peux leur dire que dans nos programmes qui visent à améliorer donc la navigation dans ce pays, nous avons tout un programme qui concerne le port de Kalemie. Vous savez que bon, le Tanganyika a tendance à voir son niveau baisser. Et donc, il y a aujourd'hui des difficultés d'accès au port de Kalemie. Et dans notre programme de réhabilitation des voies fluviales, nous avons tout un volet consacré donc au lac Tanganyika, à l'amélioration des ports qui sont sur le bord du lac Tanganyika, et notamment au port de Kalemie. Je voudrais aussi saluer nos auditeurs des Kikwit. Hein. C'est en grande partie grâce à l'aide de l'Union européenne qu'aujourd'hui Kikwit est relié sans difficulté à la capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la circulation sur cette route nationale numéro 1 est encore relativement limitée, mais nous avons tout à fait l'espoir que lorsque nous arriverons à Kananga et à Mweneditu, et que là on retrouvera les grandes liaisons sur Ilebo, le long du Kasaï et vers, par la voie ferrée vers le Katanga, on aura véritablement là un axe de développement économique. Alors, comme je le disais, nous allons lancer prochainement les travaux sur 114 km supplémentaires dans cette route nationale numéro 1. Et donc, nous aurons l'occasion, j'espère, dans les semaines à venir, de venir à Kikwit pour lancer ces travaux. Alors, je le disais, bon, nous avons des programmes, bien sûr, et ces programmes visent des objectifs. Et je crois que les objectifs, je les ai cités, mais je vais les répéter puisque nous en avons trois. Mais le premier, c'est clairement la paix et la stabilité, hein, puisque sans paix, il n'y aura pas de développement économique. Et d'ailleurs aussi réciproquement, si nous n'assurons pas le développement économique, les conditions qui ont favorisé la naissance des conflits reviendront. Alors, je ne me prononcerai pas au nom de la France, mais pour les questions qui ont été poser, oui, renforcer le meilleur fonctionnement de la sécurité, de la défense. Je crois que c'est un volet important de notre programme au cours du 11e FED, qui sera de faire en sorte que le budget fonctionne mieux, que les personnels soient mieux gérés, que le bâtiment du ministère de l'état-major général soit réhabilité, de façon à ce que la République démocratique du Congo dispose effectivement d'un bon outil. Alors, nous avons vu au cours des derniers mois, et je pense que la défaite du M23 en est une illustration, les progrès qui ont été accomplis par les forces armées congolaises, celles-ci peuvent et doivent continuer et nous sommes évidemment déterminés à les aider. Alors, les conflits, je crois qu'il y a aussi des raisons. Bon, nous connaissons tous évidemment la situation internationale, mais il y a également des dynamiques locales, notamment les problèmes concernant la gouvernance du secteur minier. Nous avons participé à la réunion, la deuxième conférence minière qui s'est tenue à Goma très récemment. Nous avons des propositions permettant notamment une auto-certification des entreprises européennes pour permettre l'importation de minerais qui soient des minerais qui ont été produits dans des conditions correctes. Donc nous avons également un appui qui est apporté à la conférence internationale de la région des Grands Lacs pour certifier les minerais, et nous le faisons d'une manière réaliste, de façon à ne pas non plus mettre les mineurs artisanaux, les creuseurs au chômage, parce que c'est aussi une préoccupation. Donc nous avons, je crois, aujourd'hui trouvé un bon équilibre qui devrait permettre donc aujourd'hui et demain d'avoir une production de minerais qui ne débouche pas sur des conflits. Il y a également les problèmes fonciers, bon, qui sont des problèmes importants, et je pense que nous contribuerons à l'avenir à des programmes qui permettront de faciliter le retour d'un certain nombre de Congolais qui sont dans des pays voisins, et réciproquement de favoriser les conditions permettant le retour des populations, dans le cadre évidemment des mécanismes qui existent, vers leur région d'origine. Alors, je crois également que il a été dit que on souhaitait que la RDC puisse un jour se passer de l'international. Je crois que c'est également notre souhait. C'est un peu la conclusion et l'axe sur lequel a été fondé le sommet qui vient de se dérouler à Bruxelles. C'est une relation de partenaires, entre partenaires égaux. Et notre souci, c'est effectivement, un, d'abord de terminer dès que possible l'aide humanitaire. ECHO apporte une aide très importante dans ce pays. Et notre souci, c'est évidemment que celle-ci se termine au plus vite, parce que ça voudra dire que la paix est revenue. Et puis, c'est que ce pays se développe et puisse voler de ses propres ailes.
Mais vous avez suivi ingénieur Mangoye de Kinshasa. Lui, il disait, il a tendance, la tendance générale, c'est que l'Union européenne, quand on amène l'aide, c'est selon, on dicte ce qu'on veut faire. Est-ce qu'il y a des discussions en amont pour savoir, avec le gouvernement, où est-ce qu'on doit en principe affecter cette aide?
Écoutez, je dirais que même que c'est totalement le contraire, puisque, premièrement, le programme est fondé sur les différents documents de programmation, de politique, qui ont été définis et mis au point par le gouvernement congolais. Deuxièmement, le programme, ce qu'on appelle le programme indicatif national pour la République démocratique du Congo, a fait l'objet de discussions très approfondies entre la délégation et les autorités congolaises. C'est le Premier ministre, sous les instructions du Président de la République, qui nous dit « voilà ce vers quoi nous souhaitons aller ». C'est le ministre des Finances qui est l'ordonnateur national, c'est-à-dire celui qui ordonnance notre programmation, qui nous a dit « voilà, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça ». Et nous avons discuté avec, une fois que les grands secteurs ont été identifiés, nous avons discuté avec les différents ministres, et les différents ministres nous disent « voilà, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça ». Je prends l'exemple de la justice, par exemple. Nous avons eu des discussions très approfondies avec la ministre de la Justice, qui nous dit « écoutez, moi j'aimerais bien mettre un tribunal de paix à tel endroit, mettre l'accent sur l'Institut pour la formation au métier du droit, il faut que les travaux soient accélérés pour le palais de justice, et à chaque fois, nous faisons en sorte que nous calions nos programmes exactement sur les souhaits du gouvernement congolais. Et je vous rappelle, parce que quand même c'est important, oui, que la mise en œuvre du programme, elle est faite par un organisme congolais qui s'appelle la COFED, et que c'est elle qui met en œuvre nos programmes.
Et c'est le souhait même de notre ami Arsène Dekekuit qui a pensé qu'il faudrait aussi privilégier l'éducation, la formation, les infrastructures en termes d'éducation.
Alors, sur l'éducation, bon, c'est évidemment une préoccupation très importante. Hein. Et il est clair que l'éducation doit être privilégiée. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? D'une part, nous considérons que il faut que nos programmes soient bien coordonnés avec les programmes de nos partenaires. Il y a une institution, une agence des Nations Unies qui s'appelle l'UNESCO et qui est responsable de l'éducation. Il y a un fonds global pour l'éducation. Et donc, nous avons contribué à ce fonds au niveau central, à Paris, hein, au siège de l'UNESCO. Et lorsque la discussion est venue sur à qui devaient être attribués les fonds répartis à travers ce fonds global, nous avons appuyé la demande de la République démocratique du Congo que nous soit accordé une enveloppe importante. Le deuxième point, c'est essentiellement une question de budget. Et donc, nous faisons tous les efforts avec le gouvernement congolais pour faire en sorte que les recettes du budget de l'État augmentent. Nous aurons au cours du prochain programme tout un programme avec le ministère du budget, avec le ministère des finances pour faire en sorte que les recettes fiscales, les recettes des impôts, les recettes de la douane augmentent, et nous plaidons auprès du gouvernement avec nos partenaires pour que cet effort aille principalement sur le ministère de l'éducation et de la santé. Je dirais quand même encore un dernier mot. Nous avons eu toute une discussion avec nos partenaires et nous avons discuté qui fait quoi. Et nous sommes convenus qu'il y avait déjà beaucoup d'intervenants dans le secteur de l'éducation, qu'en revanche, le secteur de la santé était un peu moins bien servi. Et donc, pour éviter de disperser nos efforts, nous sommes dans une discussion avec nos partenaires de la communauté internationale, convenu que l'Union européenne interviendrait principalement dans le domaine de la santé et que d'autres partenaires tels que la France, la Belgique, le DFID interviendraient dans le domaine de l'éducation.
Voilà, merci. Nous avons Jean qui est ici à Kinshasa, Papi est à Kinshasa aussi et Michel à Matadi dans la province du Bas-Congo. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Jean, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Vous avez suivi les uns et les autres. On vous écoute.
Ok, merci la présidente. Bonjour et bonjour à Radio Café. Parole aux auditeurs. Moi, d'entrée du jeu, je voulais juste souligner que moi, je ne comprends jamais ce concept. On parle de l'aide, Moi, je souhaite qu'on puisse parler de l'emprunt. L'emprunt que la RDC fait à partir de l'Union européenne et d'autres organismes internationaux. Parce que nous connaissons par quel mécanisme l'Union européenne et d'autres récupèrent ce qu'on dit l'aide. Et le grand problème, c'est que ces aides-là ne nous permettent pas de nous développer. Pourquoi ? Parce que quand vous avez toujours la main tendue, vous ne saurez pas prendre la responsabilité de votre vie, comment chercher le pain pour nourrir bien votre famille, parce que vous attendez toujours ce qui doit venir de l'extérieur. C'est ce qui ne favorise pas le développement dans notre pays. Quelle aide n'avons-nous pas reçue dans ce pays? Vous pouvez me dire, même si on passe mal les cinq dernières années, qu'est-ce que nous en avions fait? Pas grand-chose. Nous parlons de l'éducation tout à l'heure aussi. Alors, vous allez remarquer que quand il y a le financement qui vient sur le plan de l'éducation, on choisit par exemple certaines écoles dans les grands centres et dans les grandes villes. Alors que même dans ces grandes villes, il y a certaines écoles qui sont privilégiées au détriment des autres. Alors, de quelle information nous parlons? Et vous avez remarqué que dans l'enseignement actuellement, il y a donc les baisses de niveau client, en tout cas. Et je ne sais pas si ça continue comme ça, dans 10 ans, quel type d'homme aurons-nous dans ces pays ici. Donc, moi j'estime bien, c'est qu'on puisse capitaliser les moyens qu'on nous donne et passer par les systèmes de vérification. Vous avez investi autant dans tel domaine. Est-ce que l'argent investi à ce domaine a été, dépensé pour la cause? Au lieu de dire, on a reçu autant, mais il n'y a pas de suivi. C'est ce qui fait aussi le problème. Alors, sur le plan éducation, j'insiste beaucoup qu'on puisse pas seulement voir les écoles des grands centres, mais aussi qu'on aille dans les périphériques, puisque là, la population ou les petits-enfants
Merci beaucoup, Jean. Merci.
Voilà ce que je voulais dire l'année prochaine.
Merci beaucoup, Jean. Vous dites que le fait qu'on puisse tout le temps bénéficier de l'aide extérieure, cela fait qu'on ne fournisse pas assez d'efforts pour devenir et développer ses capacités de pouvoir résoudre le problème de la population. Mais dis-moi, je retiens le contrôle et les suivis. Vous souhaitez qu'autant d'argent investi dans un tel secteur, qu'il y ait aussi des mécanismes de contrôle et de suivi pour s'assurer vraiment que l'argent a résolu le problème. Merci, Jean. Michel, vous êtes à Matadi, dans la province de Bakongo, bonjour. Michel, vous êtes à Matadi, bonjour. Voilà, on a des petits soucis de ligne avec Michel qui est à Matadi. Je crois bien qu'il y a un autre auditeur qui est en ligne, le temps. Peut-être que notre invité, Monsieur Jean-Michel Dumont, placer un mot par rapport à la démocratie, parce que le docteur Richard de Kinshasa a beaucoup insisté. Vu ce qui se passe en Centrafrique, il a peur que si la démocratie n'est pas ancrée comme il faut en RDC, elle peut être, la pratique de la démocratie peut être germe à des conflits. Alors, quels sont les efforts qui sont fournis dans la consolidation de la démocratie? Parce que là, il a donné l'exemple, n'est-ce pas, de l'asymétrie des institutions, des élections qui font défaut depuis 2006 jusqu'à ce moment. Voilà cette inquiétude de Dr. Richard de Kinshasa.
Côté concernant la démocratie, je pense que l'enracinement de la démocratie et la consolidation du processus démocratique est évidemment au cœur de nos préoccupations. Nous avons apporté que ce soit en 2006, en 2011, notre appui au processus électoral. Il y aura une mission qui va venir prochainement, au mois de juin, pour voir dans quelles conditions les recommandations qui avaient été formulées par la mission d'observation électorale de l'Union européenne ont été remplies. Et sur cette base, nous verrons dans quelles conditions nous pouvons appuyer la poursuite du processus électoral, d'une part, dans l'organisation des élections locales et ensuite dans les élections présidentielles et législatives qui doivent se tenir, je dis bien doivent car le respect du calendrier des échéances électorales est important, donc à l'automne 2016. Pour répondre à la question précédente, je voudrais d'abord préciser une chose très clairement, c'est que notre assistance est exclusivement en don et pas en prêt. Notre souhait est bien évidemment l'aide puisse cesser un jour. Bon. La République démocratique du Congo a un nombre de richesses incalculables et une population qui souffre. Donc il faut mettre un terme à ce paradoxe. Le gouvernement, les ministres l'ont dit, c'est d'abord un problème de gouvernance. Et notre assistance vise d'abord à aider le gouvernement à améliorer la gouvernance. Et la préoccupation qui a été exprimée est également la nôtre. C'est-à-dire que je prends un programme comme le programme de santé. Notre objectif est de bâtir un système. Notre objectif n'est pas de distribuer des soins de santé, n'est pas de distribuer des médicaments. C'est de mettre en place un système qui fonctionne, où une partie de la population sera habituée, celle qui en a les moyens, à payer pour des soins de santé. Et qu'il y ait un système avec des divisions provinciales de la santé, avec des centres de santé, avec des médecins formés, avec des infirmiers formés, avec des personnels de santé qui sont formés, qui fait que le jour où nous partons, parce que il faut que nous partions un jour pour que ce pays se développe réellement, le système ne s'écroule pas. Parce que c'est ça le problème. Si vous donnez des médicaments, le lendemain où vous partez, il n'y a plus rien. Si vous avez bâti un système de santé, le jour où vous partez, ça reste. Et c'est ça que nous souhaitons faire.
Voilà. Lokio, vous êtes ici à Kinshasa, Maître Mashaka Lubumbashi. Lokio, vous êtes avec nous, bonjour. On a des petits soucis de ligne avec vous. Lokio, c'est bon, je crois. On vous écoute, Lokio.
Oui, je vous écoute, monsieur le journaliste.
Voilà, vous avez suivi les uns et les autres en temps vers la dernière partie de cette émission. Pour vous, quels sont les axes prioritaires à privilégier dans la coopération entre la RDC et l'Union européenne?
Monsieur le journaliste, moi, je vous remercie beaucoup pour votre émission. Je salue monsieur qui est là. Mais ma préoccupation est pour qu'être chrétien, de savoir. Je pose une question à l'intervenant. J'aimerais savoir quel est l'intérêt principal qui amène l'Union européenne à venir en aide. L'Union européenne veut nous aider. En vue de quoi? Est-ce qu'il nous approche parce qu'il veut nous aider ou soit il nous approche en vue de nous aliéner? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question est de savoir. Si monsieur l'intervenant peut me citer ou peut nous citer s'il y a un pays du monde qui n'était pas développé et qui s'est développé à cause de l'Union européenne, puisque avec les quatre axes qu'il avait cités, parfois il y a la santé, l'infrastructure, la sécurité, l'éducation. La santé, oui, ils peuvent nous amener des médicaments, ils nous font des dons au coma, mais des médicaments qu'ils nous apportent, ces médicaments là nos pharmaciens ne participent pas.
Lokio, peut-être pour vous aider, quoi, ce qu'on doit évoluer, on est à la fin de l'émission. Notre invité venait de dire tout à l'heure, il ne parlait pas en termes de dons d'un médicament, il a parlé de bâtir un système de santé. C'est juste la différence qu'il venait d'expliquer tout à l'heure. Comme ça, ça peut nous permettre d'évoluer. Et la première question, vous avez demandé l'intérêt pour lequel l'Union européenne vient aider la RDC, mais aussi savoir s'il y a un pays sous-développé qui a bénéficié de l'aide de l'Union européenne et qui s'est développé. Voilà. Merci beaucoup, Lokio. Maître Mashaka, vous êtes à Lubumbashi dans le Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capine.
On vous écoute, Maître Mashaka.
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole, monsieur Pierrot. Vous savez, je salue l'initiative et l'assistance de l'Union européenne, monsieur Pierrot. Mais le problème qui est là, si on parle aujourd'hui de guerre, on parle aujourd'hui de crise par-ci, par-là, M. Perrot, je crois que c'est par l'absence d'une justice là équitable. C'est l'impunité souvent qui nous préoccupe et qui nous remet toujours à zéro, M. Perrot, puisque ce que moi je vais demander à l'Union européenne, M. Perrot, c'est de s'atteler aussi beaucoup plus sur l'application d'une justice équitable en République démocratique du Congo. Puisque vous savez, aujourd'hui, il peut nous amener les aides. Les aides là, si ce n'est pas bien utilisé, c'est parce qu'il y a de l'impunité. Il y a les gens qui détournent les dons de l'Union européenne. Il y a les gens qui utilisent ces fonds-là comme ils le veulent, puisqu'ils ne sont pas inquiétés. Alors, l'Union européenne, M. Perrot, pour nous permettre à bien évoluer et puis à établir une démocratie durable dans notre pays, il faut qu'il nous aide aussi dans le domaine de la justice pour que nous ayons une justice solide et une justice équitable, M. Perrot.
Merci beaucoup, Maître Mashaka. Vous avez évoqué la lutte contre l'impunité. Vous souhaitez qu'on puisse consacrer beaucoup d'efforts au niveau de l'Union européenne dans la lutte contre l'impunité, le renforcement de la justice. Merci. Nous restons à Kinshasa pour terminer avec Robert. Robert, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur Magier.
On vous écoute, c'est Pierrot. Robert, vous avez suivi les uns et les autres. On va terminer avec vous, au nom de tous les auditeurs, votre point de vue.
En tout cas, je remercie tous les auditeurs. Je vous remercie, vous qui êtes le journaliste, et surtout l'invité. Uh-huh. Mais ma préoccupation consiste en ce que l'invité a dit, qu'ils veulent aider à la mobilisation des recettes, des douanes, des contributions et tout ce que vous voulez. Mais moi, je ne vois pas quel est le mécanisme qu'ils entrevoient pour réussir cette mobilisation avec ce grand degré de corruption de tous les agents commis à ces différents postes. Ça, c'est la première question. Ma deuxième question consiste à connaître quel mécanisme ils entrevoient pour pérenniser le système des infrastructures. Parce que quand, lorsqu'ils passent quelque part, tracer une route, six mois après, c'est parti. Alors, ça signifie quoi? C'est qu'ils n'utilisent pas un bon matériel ou le matériel qu'ils utilisent. Moi, je serais même très flatté que ce soit les Japonais, parce que la route de poids lourd est très bien faite. C'est à cause d'une coopération sincère. Moi, je ne vois pas dans l'Union européenne une sincérité de cœur pouvant nous permettre de réaliser chez nous un développement. D'ailleurs, je rejoins mon ami qui m'a précédé pour dire que le développement, il n'y a aucun exemple d'un pays qu'ils ont aidé pour le développement, parce que nous continuons à être des éternels assistés. On nous assiste toujours. Pourquoi? Il n'y a pas moyen de créer un mécanisme qui puisse pérenniser notre développement pour que nous puissions démarrer nous aussi, parce que nous sommes des éternelles nécessités.
Voilà, merci beaucoup Robert. C'est peut-être la question qu'on pourra aussi demander à notre invité. Qu'est-ce qu'ils attendent des Congolais eux-mêmes dans la pérennisation, si on peut dire ainsi, de ces développements? Merci beaucoup. Nous revenons à vous, monsieur Jean-Michel Dumont. Vous avez suivi les uns et les autres. On va bientôt vraiment terminer cette émission. Il y a notre ami de Kinshasa qui a pensé qu'y a-t-il un intérêt. Je peux lier cette question avec celle de la préoccupation de Robert de Kinshasa. Il dit, pour lui, il ne pense pas qu'il y a vraiment une sincérité de cœur dans les aides que l'Union européenne accorde à la RDC. Quels sont les mécanismes pour vraiment arriver à cette mobilisation des recettes face à la corruption qui gangrène les secteurs de la fiscalité? C'est son point de vue, et en fait c'est ce qu'il a affirmé. Mais par rapport aux infrastructures, il ne voit pas les mécanismes d'entretien pour permettre à ce que ces infrastructures restent dans la durée. Voilà ses préoccupations, ce qui va permettre aussi de pouvoir placer un mot par rapport à ce que vous attendez vraiment des Congolais eux-mêmes après toutes ces aides.
Bon, je crois qu'il faut être très clair. Quel est l'intérêt de l'Union européenne? C'est de voir un pays qui soit stable et en paix, qui ne provoque pas et ne voit pas des drames à répétition. Notre intérêt n'est absolument pas commercial. Si vous regardez les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, ils sont dérisoires. Alors on parle par exemple, je vais vous donner un exemple, souvent des mines. Mais en réalité, regardez, il n'y a pas d'entreprise européenne aujourd'hui qui soit active dans le domaine du secteur minier. Alors, quand on regarde également, est-ce que aucun pays ne s'est développé avec l'aide de l'Union européenne? Bon, je dirais d'abord, regardons ce qui s'est passé dans le processus d'élargissement. Il y a eu des fonds structurels qui ont été mis en place pour, par exemple, les pays qui se sont libérés du communisme en 1989. Regardez les résultats 25 ans plus tard. Vous avez un pays comme la Pologne, qui était à peu près au même niveau que l'Ukraine il y a 25 ans. Aujourd'hui, les Polonais sont trois fois plus riches que les Ukrainiens. Donc là, c'est vraiment un résultat. Regardez ce qui se passe en Afrique. Vous avez quand même, depuis quelques années, des taux de croissance qui sont de l'ordre de 5 à 6%. C'est un bon résultat. Alors, il faut évidemment que ça profite plus à la population, mais c'est clairement un bon résultat. La justice est clairement au cœur de nos préoccupations. Si vous regardez l'énoncé de nos programmes justice, c'est faire en sorte que tous les Congolais aient accès à une justice impartiale. Alors, on nous dit il n'y a pas de suivi. Si, si, il y a des suivis, bien entendu. Il y a des audits, il y a la Cour des comptes, il y a toute une série de choses. Et il y a également des conséquences quand il y a corruption. Par exemple, il y a un certain nombre de programmes qui ont donné lieu effectivement à des actions de corruption. Je peux vous dire, sans citer de quel dossier précisément il s'agit, mais que j'ai transmis il y a une quinzaine de jours au procureur général de la République un dossier concernant des chantiers dans lesquels il y a eu clairement de la corruption, et maintenant il appartient aux autorités congolaises, au procureur général de la République, de mener les actions pour que les coupables, ou les présumés coupables, puisque bon, tout le monde est présumé innocent tant qu'il n'a pas été condamné, puissent être effectivement traduits en justice et jugés. Alors, infrastructure, là, ça je peux vous dire une chose, parce que j'ai été sur le terrain quand même plusieurs fois, je peux vous dire que le souci de l'Union européenne pour avoir des réalisations qui soient les meilleures possibles et qui soient durables est véritablement un souci permanent. Et si vous voyez la route nationale numéro 1, les tronçons que nous avons construits, ils sont toujours en bon état. Si vous regardez ce que nous allons faire à Goma, je peux vous dire que nous veillons particulièrement aux matériaux et que ce sera un très bon résultat. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour tous les travaux qui ont été réalisés. Alors après, il y a un problème qui est un problème de maintenance. Hein. Et effectivement, là, il y a un problème de respect des charges, il y a un problème des barrières de pluie. Il y a toute une culture qui doit se mettre en place. Le ministère, les différents ministères, puisque cela se concerne plusieurs ministères, en sont bien conscients et nous sommes déterminés à les aider.
Mais voilà, parce qu'on va bientôt terminer.
Alors juste peut-être
dans une minute,
peut-être juste un mot.
Oui, et ce que je demandais aussi, qu'est-ce que vous attendez en définitive la part des responsabilités des Congolais dans toutes ces aides, hein, parce qu'il faudrait vraiment qu'on termine en une minute.
Écoutez, moi j'attends tout simplement qu'ils se prennent en main pour qu'ils puissent enfin profiter des richesses qui existent ici.
Et vous vouliez placer un mot.
Oui, celui-là. Nous attendons des Congolais avec tous les atouts qu'ils ont en main, qu'ils prennent leurs responsabilités et de façon à ce que nous puissions travailler dans une véritable relation de partenariat.
Merci beaucoup, monsieur Jean-Michel Dumont. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Merci à tous les auditeurs. Vous avez été très nombreux à participer à cette émission. Nous disons aussi merci à toute l'équipe qui nous a aidés à produire Parole aux auditeurs. On se retrouve demain, mardi, pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs consacré, bien sûr, à la convention de l'opposition qui s'est clôturée la semaine passée ici à Kinshasa. Plusieurs recommandations quant au processus électoral ainsi qu'à l'enracinement de la démocratie. Comment commentez-vous cette actualité? On se retrouve demain. Merci à Mimi Kindou qui a mis en onde cette émission, supervisée par Nicole Ngaka. Berry Franklin Luchaka et Rose Nianfoua ont assuré la réalisation. Pierrot et la Meiji vous la présentaient. Fidèle, les auditeurs, au revoir.